RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Emmanuel Bastidessy.
Merci RFI pour ce journal. Tout de suite, c'est le plat de résistance sur la clé des ondes à Bordeaux. On parle de l'enfermement de personnes étrangères en France et ici, dans notre agglomération, enfermées parce qu'elles n'ont pas de papier, puisque ce samedi, ce sera la journée internationale contre la rétention et contre les CRA. Une mobilisation est organisée par le collectif Anti-CRA, dont on reçoit deux membres tout de suite. D'abord, quelques informations locales et nationales. Ce week-end avait lieu une nouvelle sarabande contre les lignes à grande vitesse Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. C'était dans le Lot-et-Garonne, on en a parlé la semaine dernière dans le plat de résistance. Au même moment, la SNCF a dégainé un sondage pour tenter de défendre son projet et mettre en avant ce chiffre de 86% des sondés qui se disent tout à fait favorables ou plutôt favorables à la LGV. Or, ce sondage nous dit surtout que 81% des sondés ne savent pas ce qu'est ce projet, donc y compris des personnes qui sont dites plutôt favorables. Et ce sondage nous fait mesurer donc la distance qui sépare le débat public ou médiatique des discussions et préoccupations de la population. Rappelons, comme le fait Pierre Urmic dans Sud-Ouest, que l'enquête publique sur ce projet de LGV avait recueilli 14 000 contributions, dont 93% donnaient un avis négatif. Dans un précédent sondage en 2018, environ 60% des sondés disaient également qu'ils n'utiliseraient jamais ou que très rarement ces lignes à grande vitesse. En parallèle de ce sondage, un avis défavorable a été rendu par les scientifiques sur les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux qui font partie du projet de LGV. Le Conseil national de la protection de la nature et l'autorité environnementale pointent toutes les incidences environnementales n'ont pas été prises en compte dans le dossier de la SNCF et s'opposent donc à ce que des espèces végétales et animales puissent être détruites pour la construction de ces lignes, de ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Toujours dans Sud-Ouest, le député écolo Nicolas Thierry demande lui un référendum pour trancher cette question, pour que chaque parti puisse exprimer de manière factuelle ses arguments. Je le cite, c'est le plus grand chantier ferroviaire européen, cela serait légitime, donc conclut Nicolas Thierry. Mauvaise nouvelle par ailleurs pour les luttes contre les méga-bassines. La Cour administrative d'appel de Bordeaux réautorise la construction et l'exploitation de méga-bassines en Charente-Maritime. La décision avait été inverse en première instance. Il s'agit de 21 méga-bassines pour 5 millions de mètres cubes d'eau stockée dans une région essentiellement céréalière. À ce sujet, une nouvelle mobilisation contre les méga-bassines aura lieu dans le Marais Poitevin du 16 au 21 juillet prochain, avec des manifestations le vendredi 19 et le samedi 20. Un appel a été lancé pour constituer des convois vélo pour rejoindre l'événement. Et à Bordeaux, un collectif s'organise en ce sens et donne rendez-vous pour y participer ce mercredi soir. Rendez-vous à 19h au marché des Douves pour organiser donc ce convoi vélo. Et puisqu'on parle de justice environnementale et justice sociale, un mot sur les 2000 manifestants qui se sont rassemblés samedi dernier à Gennevilliers, dans le nord de Paris, contre un projet d'entrepôt logistique géant. Étaient présents des écolos, mais aussi des syndicats, CGT et Solidaires, qui dénoncent de concert les emplois précaires du secteur de la logistique et les conséquences sur la santé des riverains. Cette manifestation a été fortement réprimée avec une soixantaine d'interpellations violentes, puisqu'il y a des images qui montrent notamment un policier visé à un manifestant à bout portant avec un flashball. Enfin, rappelons ce début d'après-midi, un rassemblement du mouvement éducation avec Gaza en soutien au monde de l'éducation et de la culture qui sont sous les bombes actuellement en Palestine. Le rendez-vous, c'est à 14h sur la place Stalingrad à Bordeaux. Un petit tour maintenant des événements culturels de cette semaine dans le nord de Bordeaux. Bonjour Jennifer.
Bonjour aux auditeurs de la Clé des Ondes. Le Coëti Bordeaux Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. Venez profiter d'une exposition photographique au Hall des Chartrons, de regards et de cœur, à voir jusqu'au 5 juillet, de 11h à 19h30. Toute cette semaine, le Globe Théâtre reçoit la compagnie Silex pour un spectacle jeune public à partir de 3 ans. Il reste des places pour le mardi 28 et le jeudi 30 mai à 10h et 14h30 et le samedi 1er juin à 11h. Bénéficiez d'un tarif réduit avec le Coëti Bordeaux Nord. L'association Le Petit Parc propose un événement autour de la coopération entre Bordeaux et Lima, carnet de voyage de Lima. Exposition photo, atelier de cuisine et conférences ce mercredi 29 mai de 15h à 22h. Les Vivres de l'Art vous invitent à participer à la troisième édition des Livres de l'Art ce mercredi 29 mai de 18h à 22h. Venez rencontrer Sophie Poirier, l'autrice qui présentera son dernier ouvrage, La femme domino, publié aux éditions Actes Sud. La soirée sera également l'occasion de rendre hommage à Bernard Pivot avec sa célèbre dictée. La compagnie Jusqu'à l'Aube s'invite au théâtre Le Cerisier pour son nouveau spectacle de théâtre, Eva Perron, à voir du 29 mai au 1er juin à 20h. Bénéficiez également d'un tarif réduit avec le Coyote Bordeaux Nord. Le Centre social du Grand Parc invite les artistes à partager un moment convivial autour d'une boisson chaude pour rencontrer d'autres artistes et partager et discuter. Rendez-vous ce jeudi 30 mai à partir de 16h30. L'association Les Petits Tréteaux organise tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 des ateliers de théâtre gratuits ouverts à toutes et tous. Rendez-vous jeudi 30 mai au Centre social du Grand Parc. Le théâtre du Pont Tournant vous invite à découvrir ou redécouvrir le classique de Molière, Le Malade Imaginaire, ce jeudi 30 et vendredi 31 mai à 20h30. Bénéficiez d'un tarif réduit avec le Coyote Bordeaux Nord. La Maison Bourbon, avec l'agence Sens Commun, participe à la troisième édition de la Foire internationale d'art et de design de Bordeaux. Plongez dans les œuvres picturales de l'artiste Boram Choix, à voir du vendredi 31 mai au 15 juin, du mercredi au samedi, de 14h à 18h. Vernissage de l'exposition ce jeudi 30 mai à 18h30. La Bibliothèque du Grand Parc propose aux plus de 10 ans un atelier de création musicale avec l'outil numérique Jouéplay, ce vendredi 31 mai à 16h30. Les habitants de Bacalan et de Bordeaux sont conviés à la fête des voisins de la cité La Lumineuse ce vendredi 31 mai de 17h à 23h. Au programme, concours de pétanque, contes, jeux de société, visite guidée du lieu, concerts, scènes ouvertes, DJ set et auberge espagnole. Le Garage Moderne vous accueille pour le quatrième rendez-vous des Entractes solidaires, un événement qui mêle culture et solidarité, ce vendredi 31 mai de 19h à 23h. Au programme, rire, magie et musique. Le Comité d'habitants Grand Parc en Mouvement vous convie à son repas partagé annuel avec soirée dansante. Rendez-vous sur la place de l'Europe vendredi 31 mai à partir de 18h30. La Maison du Jardinier organise une visite guidée du parc Rivière samedi 1er juin de 10h à midi. L'Alternative Urbaine vous propose une balade sur le quartier du Grand Parc, un quartier aux mille et une facettes. Rendez-vous samedi 1er juin de 10h45 à 12h15. Les élèves de l'école de danse de Madrasa Alfan vous invitent à un spectacle autour de l'Égypte d'hier et d'aujourd'hui. Shira Alfan, la rue de l'art, sera visible samedi 1er juin à 20h30. Bénéficiez d'un tarif réduit avec le collectif Bordeaux Nord. Il s'agit d'un spectacle qui se déroulera au théâtre du Pont Tournant. Et pour finir, la salle des fêtes du Grand Parc accueille le concert des artistes Bikini Kill et Gomet Gain ce dimanche 2 juin. Ouverture des portes à partir de 19h. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
C'est tout et c'est beaucoup, beaucoup d'événements cette fin de semaine dans les quartiers de Bordeaux-Nord. Merci beaucoup, Jennifer. 12h18 sur la clé des ondes, vous écoutez le plat de résistance et on s'intéresse à la rétention et au centre de rétention administrative à Bordeaux et en France. Ce samedi, ce sera la journée internationale contre les CRA et à Bordeaux, eh bien, une mobilisation aura lieu samedi matin à partir, le rendez-vous c'est à partir de 10h30 sur le parvis de l'hôtel de ville de Senon. On va reparler de cette mobilisation et de pourquoi cet endroit avec nos deux invités. Bonjour Émilie Charlotte.
Bonjour.
Tu es intervenante juridique en rétention pour la CIMAD au CRA de Bordeaux et membre du collectif Anti-CRA et l'une des animatrices de l'émission À travers les murs chaque mercredi matin sur la clé des ondes. Et Jean-Christophe, bonjour.
Salut.
Du collectif pour l'égalité des droits sur la rive droite et du collectif Anti-CRA également. Alors peut-être pour bien repartir de la base et savoir de quoi on parle, Émilie Charlotte, c'est quoi la rétention ?
Alors, la rétention administrative, ça englobe plusieurs choses. On entend parfois parler des CRA, centres de rétention administrative, ou des LRA, locaux de rétention administrative. Et la rétention administrative, en fait, c'est une forme d'enfermement des personnes étrangères qui sont en situation irrégulière et que la France souhaite expulser. Donc, très concrètement, la préfecture, le plus souvent, donc la préfecture va prendre ce qu'on appelle une mesure d'expulsion, les plus connues étant les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, Et ces personnes-là, donc étrangères qui sont en situation irrégulière, se retrouvent enfermées dans ces lieux d'enfermement qui ressemblent en tout point à des prisons, afin que la France puisse tenter de les expulser vers leur pays d'origine.
Il y en a surtout dans les grandes villes, c'est ça, plusieurs par région. Alors pour ce qui est de chez nous à Bordeaux, il y a un CRA qui est situé dans le sous-sol de l'hôtel de police. Il y en a également, je crois, dans la région à Hendaye, c'est ça ?
Alors exactement, en France, à ce jour, il y a 25 centres de rétention administrative, donc CRA, soit un total de 1948 places. Il y en a en effet donc, dans notre région, à Bordeaux, donc sous le commissariat de police de Mériadec, également proche de nous à Hendaye et à Toulouse, où c'est également la CIMAD qui intervient dans ces locaux-là pour apporter une assistance juridique aux personnes qui sont enfermées.
Et au total, en 2023, il y a eu près de 47 000 personnes enfermées, c'est ça ? Ce chiffre, ça, alors, c'est des personnes enfermées qui sont pour une partie d'entre elles expulsées. Ensuite, parfois, il y a des recours et ça vous permet en tout cas d'arriver à gagner le fait qu'elles ne soient pas expulsées, c'est ça, Émilie Charlotte ?
C'est ça, donc un peu moins de 47 000 personnes pour l'année 2023. Malheureusement, on constate que la durée de la rétention, elle augmente, donc à savoir que les personnes peuvent être enfermées pour un maximum légal de 3 mois. Donc cette durée de rétention augmente sans pour autant que l'expulsion augmente. Donc les personnes se retrouvent enfermées davantage de temps pour rien.
C'est quoi un peu les motifs pour lesquels ces personnes-là elles sont arrêtées ? Comment on se retrouve en CRA et comment on se retrouve à être expulsé ? Comment l'État, comment la police pratique ces arrestations, cette rétention et ces expulsions ?
Alors, on a vraiment des situations tout à fait variées. Donc, en l'occurrence, à Bordeaux, c'est un CRA de 20 places hommes. Donc, nous, on ne voit que des hommes enfermés. Et il y a vraiment tous les profils, des personnes qui sont en France depuis 10, 20 ans, qui n'ont pas vu leur titre de séjour être renouvelé parce que les démarches sont très contraignantes et le fait est qu'ils n'ont pas eu de titre de séjour. Et ils se retrouvent à être interpellés dans la rue, contrôle d'identité, par exemple. Ça peut être aussi un placement en garde à vue suite à un état d'ébriété, ou parce que la personne a été arrêtée pour vol. On a vraiment plein de situations différentes. On a aussi des personnes qui sortent de maisons d'arrêt, donc notamment de Gradignan, qui en fait pensant, une fois qu'elles ont fini leur peine, pensent retrouver la liberté et en fait ne sont pas informées qu'elles ont eu une obligation de quitter le territoire français et se retrouvent en fait en CRA sans comprendre pourquoi.
Tu disais, la CIMAD intervient dans les CRA aujourd'hui en France pour prêter assistance et pour aussi avoir un regard, prêter assistance aux personnes qui sont enfermées et avoir aussi un moyen de savoir ce qui s'y passe. On voit en parallèle la politique de l'État qui vise à multiplier ces centres de rétention, à les industrialiser presque, à créer des CRA beaucoup plus importants qu'auparavant. On va parler du projet à Bordeaux avec un nouveau CRA qui ferait 140 places. Quel regard la CIMAD porte là-dessus et jusqu'à quand est-ce que être dans ces CRA pour la CIMAD, ça représente un intérêt et à quel moment ça devient peut-être participer, en tout cas laisser faire cette politique de l'État ? Émilie Charlotte ?
Alors nous, évidemment, la CIMAD, on est contre l'enfermement des personnes étrangères. On intervient dans les CRA depuis leur légalisation, donc depuis le début des années 80. On avait été initialement... Le gouvernement était venu chercher la CIMAD afin qu'en fait, il puisse avoir une assistance juridique dans ces centres de rétention parce qu'auparavant, personne ne pouvait s'y rendre. Donc nous, évidemment, on condamne ces lieux-là. On souhaiterait qu'ils n'existent pas. En pratique, on se retrouve à essayer d'accompagner les personnes qui sont enfermées avec des législations qui sont toujours plus restrictives. Et là, et en parallèle, on essaye aussi de pouvoir porter leurs témoignages à l'extérieur du CRA, de pouvoir communiquer sur ce qui s'y passe, parce que très peu de personnes peuvent s'y rendre et ce sont des endroits totalement fermés.
Et je crois que ça fait partie des débats quand même à l'intérieur de la CIMAD de voilà, jusqu'à quand on le fait et quand est-ce qu'on dit là c'est plus possible quand il y a des unités avec 140 personnes enfermées et qu'on voit cette politique qui est sans fin de la part de l'État. Il y a aussi une volonté de dire voilà, on est contre ces structures et donc on n'y met pas les pieds.
Oui, également, c'est toujours très compliqué d'intervenir dans ces lieux-là. La CIMAD ne souhaite pas intervenir dans les nouveaux centres de rétention et en effet se pose la question de continuer notre intervention ou pas, dans quel CRA et à quelles conditions.
Donc je le disais, à Bordeaux, tu le disais, il y a un CRA actuellement qui fait une vingtaine de places. Il y a un projet dont on entend parler depuis des années maintenant, pour lequel s'est constitué ce collectif anti-CRA. Jean-Christophe, peut-être, alors toi d'abord, en tant que militant du collectif Égalité des droits, qui aide de la solidarité auprès de personnes qui en ont besoin et qui sont en situation de migration à Bordeaux, comment vous, au collectif, vous en êtes arrivé à faire partie de ce collectif et à rejoindre cette bataille-là contre les centres de rétention, Jean-Christophe ?
Oui, effectivement, depuis plus de 35 ans, là, sur la rive droite, nous recevons énormément de personnes d'origine étrangère qui essaient de régulariser leur situation avec des cas de figure très très divers. Et on voit effectivement que de plus en plus souvent maintenant, les décisions qui les concernent, que ce soit sur des premières demandes ou des renouvellements, sont assorties d'obligations de quitter le territoire et donc de la menace de la rétention. Mmh. Alors qu'il y a d'autres possibilités, il faut quand même indiquer que la rétention n'est pas obligatoire dans le droit français, qu'il peut y avoir une assignation à domicile, par exemple, ce qui permet quand même aux personnes d'être dans une situation beaucoup plus facile lorsqu'il y a une vie de famille, lorsqu'il y a des obligations à remplir, notamment par rapport à la régularisation de leur situation. Mmh. Alors, à ce titre-là, on était parmi les fondateurs des États généraux des migrations en Gironde, et effectivement, avec notre festival interculturel Planète, là on avait incité à ce qu'il y ait une coordination un petit peu des efforts qui étaient faits par différentes associations sur la Gironde, et on a très vite pointé donc cette difficulté de l'enfermement qui devenait quasi systématique au moindre contrôle de personnes sans papier. Et on a participé donc à ce titre au lancement de cette initiative de lutter contre le projet de centre de rétention administrative qui devait arriver tout d'abord à Pessac et qui a été transféré, le projet est sur Mérignac maintenant. Et lorsqu'il y a eu cette annonce de créer le plus grand centre de rétention de France, on a voulu manifester qu'on ne voulait pas que ça soit fait en notre nom et que effectivement d'autres politiques migratoires étaient possibles que de passer par l'enfermement.
C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on parle pas mal de vous, en tout cas ici sur la Clé des Ondes.
Et on vous a remercié.
une victoire en demi-teinte, on va dire, à Pessac, puisque oui. Suite à la mobilisation aussi de riverains, le maire de Pessac avait dit non, on ne le fait pas ici, et donc négocié avec Alain Anziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole, que le CRA soit déplacé sur la commune de Mérignac, ce qui a été acté. On en est où de ce projet-là de CRA sur la métropole de Bordeaux, Jean-Christophe ?
Alors, il y a eu effectivement un échange de terrain qui a été proposé à l'État, qui était propriétaire d'une parcelle le long de la rocade de la Pessac, mais dans un quartier pavillonnaire. Donc, la métropole a proposé un terrain qui est proche du crématorium et du cimetière intercommunal de Mérignac, donc dans une zone qui devait être un bioparc. Et effectivement, là, l'échange, on a appris qu'il s'était fait sous forme d'un arrêté, en considérant que les terrains avaient la même valeur, alors qu'il y avait des tailles très différentes entre celui de Pessac et celui de Mérignac. Donc ça nous a semblé quand même important de réagir aussi sur le plan juridique, parce qu'il y avait des points d'accroche pour aller en tribunal administratif. Donc là, on a lancé avec des avocats une procédure dans ce sens. Bon, on n'a pas encore de date de fixer, mais on voudrait effectivement qu'il y ait une remise en cause de cet accord entre la métropole et l'État. À ce titre, on est aussi intervenu dans les conseils municipaux de la métropole et lors du conseil métropolitain pour dénoncer cette aide qui était faite à la politique d'enfermement de l'État. Et on a ainsi obtenu des motions de défiance contre la construction de ce nouveau centre de rétention dans les communes de Senon et Leurmont. et on va continuer à solliciter les autres villes de la métropole pour faire pression effectivement sur cette politique qui facilite les projets de Darmanin d'accroître le nombre de places en rétention.
Oui, on rappelle qu'il me semble même la ville de Mérignac fait partie de l'Association nationale des villes et territoires accueillants.
Oui, tout à fait. Alors bon, on espérait que ça ne serait pas accueillant pour un centre de rétention, que c'était plutôt pour l'accueil des étrangers. Et là, malheureusement, on fait aussi pression pour qu'il y ait un respect de la charte de cette association nationale, à laquelle il y a aussi Bordeaux, le département de la Gironde, enfin il y a d'autres villes localement qui se sont manifestés pour défendre une politique d'accueil.
En attendant, le projet, là, il a l'air lancé. Vous me disiez juste avant que les appels d'offres ont déjà été publiés et remportés par Bouygues, qui commencerait à construire ce nouveau CRA à partir de la fin de cette année.
Voilà, c'est ce qui est annoncé. Alors, bon, on espère que notre action en justice va permettre de ralentir le mouvement, mais sinon, il était question d'une ouverture début 2026. Donc là, on aimerait que les travaux ne démarrent pas trop vite. Il y a aussi des contraintes environnementales que l'on pensait pouvoir mettre en exergue, parce que c'est quand même un terrain qui, au départ, devait être consacré à des activités de nature. Et là, bon, on n'est pas du tout dans cette logique-là avec la construction d'un CRA.
On parle de CRA, centre de rétention administrative, mais il y a aussi les LRA, locaux de rétention administrative, qui passent encore plus invisibles sous le tapis, c'est ça, Émilie Charlotte, tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit ?
Oui, alors concernant les LRA, il faut vraiment avoir en tête que c'est un rouage essentiel dans la politique d'enfermement et d'expulsion des personnes étrangères. Donc comme les CRA, ce sont des lieux d'enfermement pour les personnes étrangères que la France veut expulser, à la différence que ces lieux-là sont des lieux d'enfermement de courte durée, donc on parle de 48 heures maximum. Ces lieux-là sont régis par l'article R744-8 du CCEDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, qui explique grossièrement que lorsqu'il y a des circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, les étrangers qui ne peuvent pas être placés immédiatement dans un centre de rétention, eh bien le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, les fameux LRA, locaux de rétention administrative. Là où c'est compliqué, c'est qu'il existe donc des locaux de rétention administrative, des LRA permanents, donc vraiment des locaux qui sont affectés à cet usage. À ce jour, en France, on en compte 28 pour 131 places. Toutefois, là où ça devient compliqué, c'est que ces locaux peuvent être également créés sur simple arrêté préfectoral et de manière éphémère. Donc en pratique, ça va être dans des hôtels, dans des commissariats, gendarmeries, souvent proches d'aéroports.
Et là, en tout cas, dans ces endroits-là, il y a très peu de surveillance. Enfin, même vous n'y entrez pas. C'est ça, les seuls moments de mémoire où il y a pu y avoir un regard extérieur, c'est quand des députés demandent à y entrer, à faire une visite, un droit d'entrée, de visite parlementaire.
C'est ça, les députés peuvent s'y rendre en visite. Et en effet, à la différence des CRA, il n'y a pas d'accès effectif au droit. Donc pas de médecin, pas d'avocat, pas d'association qui intervienne, donc à la différence des centres de rétention. Donc il y a vraiment un manque de transparence complet. Les personnes qui se retrouvent enfermées là le sont pour être expulsées généralement le lendemain et elles n'ont pas la possibilité d'avoir accès donc à un avocat, un médecin, à une association. À titre d'exemple, il arrive que lorsque, par miracle, les personnes enfermées arrivent à joindre un avocat, parce qu'elles n'ont pas, on leur retire le téléphone également. Donc lorsqu'elles arrivent à joindre un avocat par le biais de la famille, par exemple, et que l'avocat peut se rendre sur place, ils se retrouvent à faire un entretien dans une chambre d'hôtel assis sur un lit en face de la personne.
Et alors, CLRA, il y en a ici, sur l'agglomération bordelaise, et notamment sur ce nom, c'est ça, de ce que vous en savez ?
Tout à fait. On a découvert, grâce à un article de Sud-Ouest, en octobre 2021, qu'il y avait un local de rétention administrative permanent de 12 places qui a été créé au sein de la base des CRS à ce nom. Donc un lieu effectivement très discret, puisque c'est un ancien terrain militaire et il n'y a pas d'accès possible pour rendre visite aux personnes retenues. Comme disait Émilie Charlotte, c'est uniquement quelques avocats qui ont pu être alertés assez vite pour pouvoir s'y rendre. Mais généralement, comme l'expulsion arrive en suivant, il y a vraiment très peu de recours possibles. Donc là, on a ce lieu très opaque qui, effectivement, a tendance à se développer, aussi bien les aléra permanents que les lieux éphémères sur simple arrêté préfectoral. Et là, ça nous semble être l'étage supérieur de la préparation de l'expulsion que l'on condamne, effectivement. Et c'est pour cela qu'on souhaitait manifester à ce nom, pour avertir la population déjà qu'il y a ce type de comportement tout près de chez eux, d'autant plus dans des quartiers où il y a une forte proportion de personnes issues de l'immigration. Et c'est vrai que là, on voudrait quand même mettre le focus de cette manière sur cette opacité, ce manque de possibilité de démocratie, d'intervention, disons, dans ces lieux-là.
Et donc c'est pour ça que vous donnez rendez-vous samedi matin, c'est à 10h30, c'est ça ?
Voilà, c'est cela.
Devant l'hôtel de ville de ce nom ?
Tout à fait, hein. On souhaite pouvoir informer la population, pouvoir discuter, même essayer d'avoir des témoignages de personnes retenues, peut-être d'avocats également qui ont eu l'occasion d'y aller, et interpeller aussi les élus de manière à ce qu'ils ne facilitent pas le travail de l'État dans cette politique migratoire qui est désastreuse pour les vies des personnes.
Tu parlais tout à l'heure de l'activité, du travail que fait le collectif Égalité des droits au quotidien, à l'année, essayer d'accueillir ces personnes dignement, de leur permettre, bien souvent, ce qu'elles demandent, c'est pas très compliqué, c'est de pouvoir travailler, c'est d'avoir un toit, de pouvoir se nourrir, avoir des vêtements, emmener leurs enfants à l'école. On voit bien comment toutes ces politiques-là, toute cette rétention, cet enfermement, que ce soit en CRA ou en LRA, il vient briser toutes ces dynamiques-là.
Tout à fait.
Et il vient désintégrer, détruire des vies, ou briser en tout cas les vies de ces personnes.
Oui, parce que en plus, les décisions d'OQTF sont très souvent stéréotypées et on se retrouve avec des rejets de demandes qui ne tiennent pas compte véritablement, qui ne personnalisent pas l'étude. Et alors, on est obligé ensuite d'aller en justice. Et là, on est assez heureux parce qu'on a eu 3 décisions favorables à la suite. 2 au tribunal administratif de Bordeaux, et on pense qu'il n'y aura pas d'appel de la préfecture, on espère en tout cas. Et pour une autre situation, une famille kurde qui était présente depuis 16 ans en France et qui avait des enfants nés en France, très intégrés dans la commune, avec un parrainage républicain des enfants. Et là, il a fallu donc aller jusqu'au Conseil d'État pour obtenir gain de cause, effectivement, que la famille puisse rester dans ces conditions. L'avis de la préfecture disant que la famille n'était pas intégrée et ayant été effectivement battue en brèche par les témoignages des voisins, des militants, des élus qui se sont mobilisés autour de la famille.
Émilie Charlotte, il y a aussi des histoires de personnes qui passent par les CRA, qui sont expulsées et parfois dans des conditions qui semblent quand même assez peu respectueuses des droits humains. Je pense à quelqu'un qui avait des soucis de santé et qui a été expulsé en pleine connaissance de cause, que ça allait entraîner une rupture dans son traitement, dans son suivi médical.
Oui, alors, donc concernant les CRA, où là je peux porter mon témoignage, les personnes, lorsqu'elles sont expulsées, donc déjà elles ne sont pas prévenues qu'elles vont être expulsées, donc elles se font réveiller, généralement c'est assez tôt le matin, donc elles se font réveiller le matin par le bruit des portes qui se bloquent afin de verrouiller l'ensemble des portes pour éviter soi-disant les mouvements de foule et pour permettre à la police d'expulser dans de meilleures conditions les personnes. Donc elles se font réveiller très tôt le matin, 4-5 heures du matin, potentiellement emmenées de force à l'aéroport, expulsées. Et en effet, on a plusieurs situations. Donc oui, récemment, une personne qui avait une grosse pathologie psychiatrique dont l'administration avait parfaitement connaissance, qui a été expulsée. On a également eu plus récemment, et malheureusement trop souvent, des parents d'enfants français qui s'occupent de leurs enfants, mariés à une femme française. Et ça arrive de plus en plus.
Merci Émilie Charlotte. Peut-être pour terminer, un mot. Alors vous le disiez, il y a plein de gens qui ignorent l'existence de ces lieux. Même on peut habiter à ce nom et ne pas savoir qu'il y a ces locaux qui sont invisibles. Mais tout de même, il y a aussi cette question du racisme qui se développe. On en parle depuis quelque temps et c'est pas pour se faire peur ou quoi, mais de ben voilà, le fait qu'une partie de la population blanche se dit il vaut mieux qu'on expulse ces gens pour nous continuer à avoir certains privilèges ou voilà, par idéologie, par racisme. Comment cette question-là, vous la prenez en compte? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble être aussi un moteur de cette politique-là de rétention et d'expulsion? Jean-Christophe ?
Oui, là, il me semble que le gouvernement a, par volonté de lutter contre l'avancée électorale de l'extrême droite, est en train de faire la même politique qu'elle et qu'elle ferait si elle était au pouvoir. Et effectivement, avec Darmanin, on voit bien que les propositions, les projets de loi sont tous allés dans le sens de la répression pour soi-disant répondre à une attente sociale qui nous semble tout à fait non constitué, parce que, enfin, en tout cas dans nos quartiers, on voit bien qu'il peut y avoir des liens de solidarité quand on se connaît, quand on se fréquente, et il y a souvent des parents d'élèves qui se solidarisent lorsqu'il y a des difficultés de séjour pour des familles, il y a des hébergeurs volontaires, donc là, on pense que tout ça doit être mis en valeur, en lumière, et qu'effectivement, il ne faut pas se tromper de colère quand il y a des services publics qui sont défaillants, quand il y a tout un tas de mesures qui sont contre les plus pauvres. Ce n'est pas la faute des étrangers, c'est bien des décisions des pouvoirs publics, et il nous semble que c'est bien cela qu'il faut mettre en lumière pour que les actions portent là où il faut.
Émilie Gérard, toi qui es juriste, est-ce que tu vois comment le droit, justement, il est utilisé justement, enfin, en tout cas, il est peut-être mal utilisé ou contrecarré pour juste des politiques et des ambitions racistes de la part du ministère de l'Intérieur en particulier?
On le voit globalement, que ce soit en France ou même en Europe, vraiment les politiques d'enfermement et d'expulsion, elles se développent. On a vu récemment avec le pacte asile et migration de l'Union européenne, avec la loi Darmanin récemment qui vient viser très concrètement les personnes qui sont enfermées en centre de rétention avec une réduction de leurs droits. Il existait auparavant ce qu'on appelait des catégories protégées contre les obligations de quitter le territoire français, donc concrètement des personnes qui pouvaient ne pas avoir d'obligation de quitter le territoire français. Ces catégories protégées-là ont été supprimées, donc désormais tout le monde peut être visé par une obligation de quitter le territoire français. Ces personnes-là donc se retrouvent enfermées en centre de rétention, qui sont des milieux très très méconnus. Donc tout ça vient vraiment cristalliser une peur et une crainte à l'égard de l'autre, de l'étranger, sans raison.
Merci beaucoup à vous deux. On rappelle donc le rassemblement, c'est ce samedi 1er juin à partir de 10h30 sur le parvis de l'hôtel de ville de Senon. Voilà, on a tout dit.
On a tout dit. On a choisi de faire le rassemblement le matin de manière à ce qu'on puisse participer à la marche des fiertés l'après-midi. Donc effectivement, comme cela, on sera sur la ligne de tram pour aller sur Bordeaux.
Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe du collectif pour l'égalité des droits et du collectif Anticra, et Émilie Charlotte, intervenante juridique en rétention pour la CIMAD, et qu'on retrouve aussi dans À travers les murs le mercredi matin à 11h sur La Clé des Ondes, et en podcast aussi bien sûr sur laclédesondes.fr. Merci beaucoup à vous deux.
Merci. Merci. Zaha Humea.
Kuya ni wewe jai mama uduje ukebanu wede ndu zangu. Wede ndu zangu. Mahaba yake ya daima Jaya mwanangu ya turibasha tambaba nuwede nduzangu Wede nduzangu Siwadi ni wala kabila Jamzima waende ya riumbaba Itambaba nuwede nduzangu Wede nduzangu
Vers des lendemains qui maintiennent l'amour que toutes mes mains tiennent quand elles te tiennent, toi. Et si l'enfant ne vient pas, si nos ciels ne sont pas habités pareils, si l'enfant c'est chaque jour un soleil à tisser, si l'enfant c'est l'amour dans les persiennes de nous, dans ceux qui persistent contre leur courroux, dans ceux qui perdurent les veines à nos coups, l'enfant le cœur sûr et l'envie debout. En miroir de nos jeux, en palette de tes joues, que tu sois des miens et que je sois de nous.
Nous ango, nous ango, nous ango.
C'était Elias sur Avec les ondes, Elias avec le titre Ndouzangou. Et à 12h46 sur la clé des ondes, c'est toujours le plat de résistance. Et on va dire maintenant un petit mot, un petit retour en son sur le rassemblement qui avait lieu hier soir à Bordeaux en soutien au peuple kanak. On passe donc de la politique, question de la politique répressive de l'État vis-à-vis des populations étrangères dont on parlait juste avant, à la répression des peuples colonisés en Nouvelle-Calédonie kanaki. On va commencer par entendre François Richard qui était présent donc à ce rassemblement et qui lisait un communiqué signé par plusieurs partis politiques girondins, Ensemble, les écologistes, Nouvelle Donne, le PCF, la Gauche démocratique et sociale, GDS, le NPA anticapitaliste, la France insoumise et le parti de gauche. On écoute donc leur communiqué lu à ce rassemblement.
L'élargissement du corps électoral, rendant minoritaires les Kanaks dans leur propre pays, le gouvernement compromet plus de 30 ans d'un processus de décolonisation négocié, alors que le FLNKS avait accepté de discuter d'un dégel partiel du corps électoral, à condition que ce point soit discuté dans le cadre d'un accord global. La colère qui explose aujourd'hui résulte des politiques destructrices dont les conséquences sont accentuées par les très fortes inégalités sociales et économiques sur l'île. Les propos du haut-commissaire de la République, je cite, « l'ordre républicain sera rétabli quoi qu'il en coûte », fermez les guillemets, sont inacceptables. Ce sont des propos de guerre civile. La déclaration de Macron à Nouméa le 22 mai, je cite, « il n'y aura pas de retour en arrière », fermez les guillemets, ferme la porte à toute véritable négociation avec les indépendantistes. La violence qui a déjà fait 7 morts, et donc, d'après la camarade, peut-être plus, est imputable à une politique gouvernementale basée sur le refus de la concertation avec la population kanak et ses organisations. Les organisations politiques girondines, que j'ai citées tout à l'heure, appellent à la mobilisation pour exiger le retrait immédiat du projet de loi de réforme constitutionnelle visant à changer le corps électoral pour les élections en Nouvelle-Calédonie, l'arrêt de la répression en cours contre les militantes et militants indépendantistes.
Voilà, et puis toujours à ce rassemblement, une intervention d'une femme kanak qui nous témoigne de l'état dans lequel elle et, ses, et les autres personnes kanak se trouvent depuis quelques jours et semaines maintenant.
Deux semaines maintenant qu'on ne dort plus, qu'on a nos familles avec le décalage horaire de 10 heures, qu'on a nos familles matin et soir, jour et nuit, qui nous transfèrent les photos, les vidéos de tout ce qui se passe, de la réalité, de ce que les médias ne disent pas. Il y a beaucoup de fake news, mais ils nous envoient des vidéos pour qu'on dise, en fait, qu'on parle des milices, puisque Macron, quand il a, pendant son voyage d'éclair, a simplement dit que ce n'était pas les gendarmes qui avaient tué les Kanaks, mais il n'a pas dit que c'était des milices. Les milices n'ont pas été désarmées, les milices ne sont pas poursuivies. Ils sont toujours en train de travailler aux côtés de forces de l'ordre.
Voilà, et puis toujours donc hier soir à ce rassemblement pour la Kanaki, l'intervention de l'Assemblée Générale Féministe de Gironde.
Comme les hommes kanaks, les femmes ont vécu les spoliations des terres ancestrales, les meurtres, la mise en réserve, la relégation économique et l'humiliation depuis la prise de possession de l'île par la France en 1853. Mais, n'oublions pas, elles ont aussi subi des formes de violence spécifiques. Durant les guerres coloniales, elles ont été victimes de rapts et de viols, des techniques de guerre utilisées pour semer la terreur. Lorsque les hommes colons se sont emparés de toutes les richesses de la terre, ils ont également pris le corps des femmes. Les Kanaks ont été placés de force dans des réserves. Les autorités coloniales ont imposé la demande d'autorisation aux gendarmes pour sortir des réserves, mais les femmes devaient obtenir en plus celle de leur père ou de leur mari. Les diplômes réservés aux indigènes étaient en réalité uniquement prévus pour les garçons, les filles n'ayant pas le droit de passer de diplôme. Les femmes kanaks se sont donc trouvées, encore plus que les hommes kanaks, reléguées à la marge de l'économie calédonienne. La colonisation était donc à la fois raciste et patriarcale. Depuis la fin de l'indigénat en 1946, les pouvoirs coloniaux français ont continué de s'inscrire dans cette double logique. Alors que les droits des femmes progressaient en métropole sous la pression des mouvements féministes, les lois en leur faveur ont mis longtemps à être appliquées sur le territoire. Pour exemple, la loi autorisant l'avortement, votée en 1975 en France, a été appliquée en Kanaky-Nouvelle-Calédonie en 1995. La colonisation française n'a apporté ni le progrès pour les femmes kanaks, ni pour personne. Aujourd'hui, cette oppression coloniale, raciste et sexiste s'est mélangée dans le capitalisme puisque les Kanaks sont bien plus précaires que les colons, bien plus pauvres. Les Kanaks sont exclus des emplois les mieux rémunérés, toujours réservés à ceux qui viennent de métropole. On ne forme pas les Kanaks, on fait venir des Blancs. On sait que sans indépendance économique, les femmes sont toujours plus exposées aux violences sexistes et sexuelles. La France pille les richesses de ce peuple et les femmes en paient le plus lourd tribut. Seule la révolte des opprimés pourra permettre de sortir du système colonial raciste, patriarcal, inégalitaire.
Voilà l'intervention de l'AG féministe lors de ce rassemblement pour le peuple kanak qui avait lieu hier, place Péberlan à Bordeaux. Et puis on va terminer ce plat de résistance, on reste sur les sujets féministes avec le planning familial de la Gironde dont on a pu croiser une des militantes lors du village des droits et libertés de la LDH il y a maintenant plus de deux semaines. Une de leurs militantes qui est venue à nos micros nous parler un petit peu des actualités du planning familial et qu'on écoute.
Bonjour Maude, tu es bénévole j'imagine ou salariée du planning familial de la Gironde.
Bénévole militante au planning familial, oui.
Très bien, tu vas nous parler un peu des actualités du planning, notamment sur la question de l'avortement. Ça me faisait penser, puisque Nathalie Théo parlait d'Emmanuel Macron et de Constitution, à cet événement quand même majeur qu'a été l'entrée dans la Constitution du droit à l'avortement il y a quelques mois, c'était je sais plus, en mars, quelque chose comme ça, ou en avril. Qu'est-ce que ça fait pour vous, un petit mot peut-être sur cet événement quand même important?
Alors c'est très intéressant qu'il y ait eu cette constitutionnalisation en France. Ça a permis de réveiller pas mal de conscience et notamment effectivement au niveau européen où une pétition est actuellement en cours. Il faut aller sur mavoixmonchoix.org pour signer cette pétition, qui est donc une pétition européenne pour accorder le droit à l'IVG dans tous les pays européens.
Parce qu'aujourd'hui, c'est très inégal, c'est ça, selon les pays. Il y a des endroits où ça va être.
C'est ça. C'est inégal suivant les pays. L'accès, alors, il peut être légal, mais l'accès peut être compromis suivant les pays. Les délais pour y accéder ne sont pas les mêmes suivant les pays. Là, l'idée, c'est de proposer un projet de loi au Parlement européen qui permettrait de généraliser le droit à l'avortement en Europe.
Et d'aller contre certaines volontés aussi de certains pays. On pense à la Hongrie, à la Pologne, qui ont
des droits très limités sur ces questions. Et dans des pays dans lesquels, évidemment, l'avortement est sans cesse remis en question. Voilà, et n'est pas assuré du tout. Donc l'idée, c'est d'obtenir 1 million de signatures, ce qui permettrait de rendre l'avortement sûr et accessible en Europe. Il faut aller sur Ma Voix, Mon Choix pour signer cette pétition. Donc on encourage tout le monde à le faire.
Très bien, c'est voilà. Assez simple, hein, il suffit de quelques clics et puis c'est fait.
Oui, c'est rapide, rapide et simple.
Et il y a un délai pour ça ? Combien de temps elle dure cette campagne ?
Alors elle dure un an, elle a été lancée le 24 avril. Donc la pétition s'arrêtera le 24 avril 2025. Voilà, et donc il vaut mieux le faire tout de suite, comme ça on n'oublie pas.
Super. Peut-être, est-ce qu'il y a quelques autres actualités du planning familial
oui,
à annoncer dans les semaines à venir ?
En très concret, le 4 juin, on a aussi la Nuit des Relais, qui est organisée par la Fondation des Femmes, et il y a des militantes du planning familial qui vont courir. Donc on peut soutenir en donnant via le site de la Fondation des Femmes. Et puis, de manière plus générale, j'aimerais en profiter pour, encore une fois, demander des sous, des dons, des adhésions au Planning Familial 33 pour soutenir nos actions, notamment parce qu'en ce moment, on est en très gros risque, on est en risque important de perte de subventions. On a la moitié de notre budget qui est assurée par l'ARS, l'Agence régionale pour la santé. Et il y a eu ils sont en train de nous sucrer toutes nos subventions. Et donc ça veut dire que ça va avoir un impact sur toutes nos interventions en milieu scolaire. Alors qu'on sait tous que la jeunesse est pas dans une situation, la jeunesse va mal. Il y a un recul par rapport. Une régression par rapport au sexisme. Donc, dans le dernier rapport sur le sexisme, ça a été montré. Les jeunes ont besoin de lieux d'écoute. Ils ont des questions sur la santé sexuelle. Et ils ne peuvent pas juste aller sur Internet. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont trouver. Donc, on a besoin de pouvoir continuer ces interventions en milieu scolaire. Et donc, au même moment où l'État commence à accéder à mettre en place une loi qui a été votée en 2001 qui proposait d'avoir 3 séances d'éducation à la sexualité par année scolaire de la maternelle à la terminale. Cette loi a été votée en 2001, elle n'est toujours pas appliquée. Le planning familial avec 2 autres associations c'est à attaquer l'État en justice, et l'État commence à s'engager à produire des programmes pour que cette éducation à la sexualité ait lieu, et au même moment l'ARS enlève des subventions qui permettent aux associations, et en fait là ils sont en train d'essayer de faire en sorte que ce soit les profs qui fassent ces séances sans avoir été formés au préalable et sans permettre à aucun moment qu'il y ait une concertation et un soutien des associations comme le planning familial. Donc voilà, il y a plein de programmes qui pourront plus être financés. C'est vraiment une remise en question très forte de notre association et ça pose des problèmes sociaux importants. Voilà.
Très bien, et ben on note ça et puis on se fera l'écho de ces appels de la part du planning familial dans les
Merci.
Semaines à venir si ces baisses de financement sont bel et bien confirmées et menacent le planning familial de la Gironde. Merci beaucoup Maud,
Merci
du planning familial de la Gironde. Merci beaucoup.
on arrive à la fin de ce plat de résistance. On écoute quelques notes d'Éric Truffaz qui sera en concert demain soir au Rocher de Palmer. Dans une poignée de secondes, ce sera le guide du Bordeaux colonial avec aujourd'hui un moment de littérature émancipatrice. Martine et Bertrand sont dans le studio. Salut Bertrand.
Bonsoir, bonjour.
Quel est le programme aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il sera question de colonialisme britannique en Nouvelle-Zélande. Avec, à partir du milieu du 19e siècle, les colons britanniques qui vont tenter